On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver comme chaque soir pour votre émission de confidence sur France Bleu. Et ce soir, on va parler des émotions et des émotifs. Vous êtes hyper timide, vous rougissez dès qu'on vous parle, vous vous mettez en colère très facilement, vous avez du mal à prendre la parole en public, vous pleurez tout le temps devant un film ou alors vous éclatez de rire un peu trop souvent. Si vous avez du mal à maîtriser vos émotions dans un sens comme dans un autre, alors cette émission vous concerne. Est-ce que ces émotions vous ont parfois gâché la vie? On se dit tout au 0810 055 056 en compagnie ce soir de notre grand témoin, psychothérapeute, c'est Catherine Emelet-Périssol, auteur du livre « Émotions, quand c'est plus fort que moi » chez Le Duc Édition. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
On a tous des émotions, c'est normal, mais parfois certaines prennent plus de place que d'autres.
C'est exact. On peut se sentir complètement envahi, débordé par une émotion que l'on voudrait désespérément retenir ou contrôler ou éviter. Voilà, donc ça nous concerne tous parce que l'émotion est un mouvement complètement naturel du fait d'être vivant. Tous les êtres vivants ont des émotions et nous avons des émotions singulières puisque nous sommes des êtres humains. Donc c'est avec ça que nous avons beaucoup de mal à nous raccommoder.
Mais une émotion même positive, on va dire, quand elle prend trop de place, ça peut être gênant?
En fait, une émotion, c'est nous qui la qualifions de positive ou négative. Une émotion, c'est un mouvement naturel. Elle est ni positive ni négative. Elle nous donne la possibilité d'éprouver des sensations, d'agir, de réagir à des situations. Et c'est après coup que nous allons la qualifier de positive parce qu'elle est censée nous apporter un certain éclat, une certaine dynamique. Ou alors négative, et les trois négatives, c'est toujours les mêmes, c'est la peur, la colère, la tristesse, les pauvres. Elles sont qualifiées de négatives alors qu'en fait elles ont une intention extrêmement précieuse qu'il faudrait apprendre à écouter pour pouvoir justement s'en libérer.
Mais alors vous l'écrivez dans votre livre, c'est pas forcément un problème dans le sens problématique.
C'est même exactement l'inverse, puisque l'émotion, c'est d'abord la solution qu'a trouvé notre corps, notre système nerveux, pour agir et réagir face à certaines situations. Donc nous considérons avec notre mental qui réfléchit que l'émotion peut être un problème. En réalité, l'émotion, c'est d'abord une solution. Donc, quand on la regarde comme ça, ça change tout.
Eh bien, on va en parler ce soir et on vous attend. Si vous êtes du genre à avoir des émotions souvent à fleur de peau et dans des circonstances et des proportions qui sont parfois gênantes, venez nous rejoindre et venez en parler sur France Bleu. On est ensemble jusqu'à 22h.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Vous avez du mal à maîtriser vos émotions, vous vous emportez facilement, vous n'arrivez pas à canaliser votre colère, la peur, l'excitation, l'inquiétude, le stress, l'impatience. Vous êtes du genre à faire une crise de larmes en pleine discussion un peu musclée avec votre patron ou lorsqu'on vous offre un cadeau pour votre anniversaire par exemple. Ce soir, on se dit tout sur les émotions, sur les émotifs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça vous a posé un problème au quotidien? Est-ce que vous avez réussi à en parler? Notre grand témoin ce soir, c'est Catherine Emelet-Périssol, auteure du livre « Émotions, quand c'est plus fort que moi » chez Le Duc Édition. Et on va accueillir tout de suite Gérard en région parisienne. Bonsoir Gérard.
Oui, bonsoir Vanessa et bonsoir docteur.
Bonsoir. Vous allez bien Gérard?
Oui, ça va très bien, oui. Et vous, vous passez de bonnes vacances?
Mais oui, ça va, je vous remercie, c'est gentil de me poser la question. Alors vous Gérard, on peut le dire en résumant, vous êtes un écorché vif, c'est ça?
Exactement, oui. Vous voyez par exemple, pas plus tard qu'hier, là, je suis allé voir le film de Guillaume Canet, là, comment Rock'n'Roll, et je me suis retrouvé en larmes, quoi, à la scène où il...
Ah, c'est une comédie pourtant.
Oui, mais il y a un moment où... Non, c'est une comédie assez grinçante. Hein. Il y a quand même... On arrive à rire quand même du malheur de l'autre, quoi. Faut voir le film. Hein,
vraiment, oui, parce qu'il ne faut pas dévoiler l'intrigue en plus.
Voilà, exactement, oui. Mais bon, la scène où à la fin, justement, la femme... Enfin, Marion Cotillard vient le rechercher au bout du monde pour lui... Et puis qu'elle lui chante du Demis Roussos. Je trouve que c'est... Même si ça peut paraître un peu cliché et un peu kitsch, j'ai trouvé ça sublime. Enfin, j'étais complètement porté, puis je ne sais pas, impossible de m'en retenir, quoi. Je me suis retrouvé en larmes, il y avait ma fille qui était à côté. Et alors, chose merveilleuse, c'est que ce matin, tiens, j'ai eu un SMS et ma fille qui m'a envoyé le texte de Demis Roussos.
La chanson, c'est « Quand je t'aime » en plus. Hein.
Ouais, exactement.
Mais est-ce que c'est grave, finalement, Gérard? Parce que c'est pas si grave que ça, c'est même plutôt touchant, non?
Ben,
ça vous
oui,
pose un problème,
touchant,
vous
ben, je pense. Disons que après, bon, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à retenir. Hein. En fin de compte, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Je m'aperçois que j'ai une sensibilité. On m'a souvent dit, j'avais une sensibilité assez féminine, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que ça pourrait se rapprocher. D'ailleurs, je m'entends mieux dans les discussions avec des femmes qu'avec des hommes, quoi.
Est-ce qu'il y a, je vous coupe un petit peu, Gérard, mais Catherine aime les parasols, est-ce qu'il y a une sensibilité féminine et masculine? Souvent, les hommes se retranchent derrière ça, ou quand on leur dit, ça les vexe même.
Ça les vexe, oui, c'est-à-dire que c'est du coup, c'est un peu incompréhensible, cette forme de sensibilité. En réalité, au niveau même de du fonctionnement du système émotionnel lui-même, hein, parce que ça commence quand même dans le cerveau, cette affaire, il n'y a pas de différence entre les sensibilités féminines et les sensibilités masculines. En revanche, là où se situe la différence, c'est selon des codes de conduite culturels, selon lesquels les hommes ne pleurent pas. Et donc, ils sont censés contrôler leur émotivité.
Et ça, vous nous le dites, c'est tout petit qu'on nous met finalement dans ces schémas-là. On dit aux garçons, tu pleures pas, aux filles, tu cries pas. Vous le racontez dans
oui,
votre livre.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des codes de conduite dans lesquels, selon que nous sommes filles ou garçons, nous sommes censés avoir une attitude émotionnelle singulière. Et donc, on attend des hommes qui témoignent une certaine force, une certaine virilité, donc les larmes n'en font pas partie. Et on estime qu'une fille qui crie, c'est complètement déplacé, puisque c'est plutôt réservé aux guerriers, à l'homme. Donc, malheureusement, c'est assez mal prendre en compte la fonction véritablement de l'émotion, c'est-à-dire que les larmes, et ici l'émotivité plutôt de type larmes, eh bien, c'est tout simplement une façon pour vous de prendre contact quelque part avec justement cette sensibilité. Les larmes, elles coulent d'autant plus qu'il n'y a pas d'ouverture, on va dire, à cette forme de sensibilité, cette forme d'amour, cette forme de générosité, de rencontre. Et que les larmes, c'est aussi une façon de rencontrer justement cette émotivité. Mais ça déborde.
Mais Gérard, est-ce que parfois vous vous êtes retenu? Est-ce que vous vous êtes caché même pour pleurer?
Ah ben, c'est spontané, hein. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à retenir, quoi. C'est-à-dire qu'on contrôle rien du tout. Même pour un cadeau, hein, ça m'est arrivé aussi des amis à moi qui m'offrent, par exemple. J'étais touché de savoir l'attention, et sur le moment, ça c'est venu comme ça, d'un coup, impossible.
C'est bien de ça, hein, dont il s'agit. C'est-à-dire que l'émotion, c'est pas quelque chose que l'on décide d'éprouver. C'est quelque chose qui s'impose complètement au corps, beaucoup plus qu'à l'esprit. Et ce que vous dites est très juste, hein. C'est visiblement l'attention portée, l'attention qui vous est portée. Et puis dans le film, c'est l'attention qui est portée par Marion Cotillard à son amoureux. Cette attention-là, pour des raisons qui ne parlent qu'à vous, finalement, dans votre propre histoire, eh bien, ça vous touche. Et c'est quelque chose qui, visiblement, est plus fort que vous. Et ça n'a pas d'ailleurs vocation à être maîtrisé. Ça a vocation à être accepté.
Mais socialement, ça peut être gênant. Témoin. Parfois, ça peut être gênant. Imaginez, ça arrive au travail, on est dans une réunion, il y a une émotion qui ressort. Ça peut poser problème.
C'est sûr que socialement, ça peut être mal vu. Et du coup, la personne, elle a deux possibilités. Soit elle cherche à connaître ce qui se joue à ce moment-là, soit elle cherche au contraire à endiguer cette bouffée d'émotion, sachant que plus on cherche à l'endiguer, quand elle surgit, hein, pas avant.
Plus c'est compliqué.
Plus c'est compliqué, ouais. Et plus ça déborde. Mmh. C'est comme un barrage. C'est plus vous limitez et plus ça déborde.
Et vos copains, ils disent quoi de vous, Gérard? Vos copains mâles, d'ailleurs?
C'est-à-dire que là-dessus, c'est très bien déjoué. Hein. Quand je parle avec des garçons, je leur dis bien ce qu'ils veulent entendre, en fait. Hein. Mais bon, quand je. Avec des femmes, je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ouvert, quoi.
C'est sûr, parce que les femmes ont une acceptation, un niveau d'acceptation beaucoup plus large, incontestablement. Et donc, cette réactivité que vous avez, elles la comprennent, et même si elles-mêmes ne sont pas, n'ont pas cette même réactivité, elles peuvent beaucoup mieux l'admettre, parce que ça rentre plus, effectivement, dans leur schéma de reconnaissance sociale. En revanche, la soi-disant virilité qui ferait qu'il n'y aurait pas de larmes est quelque chose qui, d'ailleurs, souvent, hein, les femmes ont du mal avec ces hommes qui se retiennent de pleurer et apprécie au contraire les hommes qui acceptent d'avoir dans leur panoplie émotionnelle la possibilité d'être débordés d'émotions, débordés de larmes, parce que ça dit quelque chose, effectivement, de cette sensibilité qui n'est absolument pas incompatible avec la virilité, loin de là.
Mais il y a des femmes qui aiment, quand même, heureusement. Gérard, merci de nous avoir appelés. Merci d'être venu ce soir sur France Bleu. On vous embrasse. À bientôt.
Moi aussi.
Au revoir,
bisous,
Gérard.
À bientôt. Au revoir.
Les émotions, les émotifs, c'est votre émission ce soir sur France Bleu. On vous attend au 0810 055 056. Si vous pleurez facilement, si vous vous mettez en colère facilement, si vous avez du mal à exprimer vos sentiments, même tout simplement, venez nous rejoindre pour en parler. Nous serons dans un instant avec Géraldine en Alsace. Quand elle est mal à l'aise, elle n'arrête pas de parler. Elle viendra nous en parler justement dans un instant. A tout de suite sur France Bleu.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et nous, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de confidences comme chaque soir sur France Bleu. On parle ce soir des émotions. Bonheur, tristesse, colère. Vous passez de l'un à l'autre et à chaque fois c'est amplifié. Vous êtes ce qu'on appelle un émotif. Alors attention, c'est pas négatif d'avoir des émotions, des sentiments. C'est plutôt même une qualité. Mais parfois, ces émotions prennent un petit peu trop de place et vous vous retrouvez submergé par vos émotions. Ce qui peut vous poser problème dans votre travail, avec vos amis, dans vos histoires d'amour aussi. Venez nous raconter comment vous avez réussi à vaincre ce surplus d'émotions, comment vous avez travaillé sur vous peut-être aussi. 0810 055 056 pour nous rejoindre. Et c'est Catherine Emelé-Périssol, auteure du livre « Émotions, quand c'est plus fort que moi » chez Le Duc Éditions, qui est notre grand témoin. Et nous partons maintenant en Alsace, chez Géraldine. Bonsoir Géraldine.
Bonsoir Vanessa, bonsoir docteur.
Bonsoir.
Est-ce que vous allez beaucoup, 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 beaucoup parler, Géraldine?
Non, ça devrait aller.
Ça va.
Je suis pas trop stressée, ça va.
Parce que quand vous êtes mal à l'aise, vous n'arrêtez pas de parler, c'est ça?
C'est ça. Alors, ça s'est un petit peu calmé ces dernières années avec à cause d'un long travail sur soi et voilà, pour se maîtriser un peu plus. Mais pendant des années, mon gros souci, ben, ça l'est toujours encore, hein, quand je suis vraiment mal à l'aise ou qu'une situation me stresse, ben voilà, je suis obligée de parler, en fait. Je vais parler, sans discontinuer. Pratiquement sans discontinuer, de tout et de rien, voilà. C'est comme si j'avais un dédoublement de la personnalité à ce moment-là, qu'il y avait mon moi habituel, plus une autre Géraldine qui était voilà, un vrai moulin à paroles, et j'arrive pas effectivement à contrôler cette pulsion. C'est très difficile de contrôler cette pulsion.
Et vous dites vous dites des bêtises parfois, ou ça reste quand même quelque chose de cohérent?
Je dois en dire des bêtises, hein, certainement, hein, ou des trucs pas intéressants, par exemple, hein, voilà. Bon, j'essaie de rester dans des choses sympas, intéressantes, mais forcément, en face, il va y avoir des gens qui vont trouver que je monopolise trop la conversation, que je les écoute pas assez. Voilà, de toute façon, je vais poser des questions, je vais pas forcément écouter la réponse. Voilà, je vais en pied qu'un autre truc derrière. Enfin, ce qui me passe par la tête, en fait. Je vais être amenée à dire tout ce qui me passe par la tête, et je pense que forcément, il va y avoir des choses, il va y avoir des bêtises, des choses pas intéressantes dans le lot. Donc,
c'est quel type d'émotion, ça, Catherine? Par exemple, quand on écoute Géraldine?
Eh bien, quand on écoute Géraldine, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de démarrer déjà au début, c'est-à-dire quand nous disons qu'une situation est stressante ou que nous sommes mal à l'aise, c'est que nous avons déjà été confrontés à quelque chose dans une situation qui a déclenché chez nous un malaise. Et ça, c'est le tout début de l'émotion. À partir de là, eh bien, le malaise que nous vivons, il déclenche inévitablement des réactions. Mmh. Et donc, ces réactions, ça peut être effectivement d'occuper l'espace, d'occuper la parole, de ramener quelque chose à soi, donc de s'exprimer. En l'occurrence, c'est ce que j'entends chez Géraldine. Et ce qu'elle dit, c'est très juste, mais c'est un peu ce que disait notre auditeur tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus fort de soi qui s'impose comme étant la solution sur le moment, qui n'est pas une solution choisie et une solution délibérée.
Est-ce qu'elle parle de dédoublement, l'impression de voir quelqu'un d'autre?
C'est une solution qui s'impose comme étant le palliatif de cet état de malaise. Et c'est vraiment un palliatif. Et donc l'émotion, c'est toujours un signal Et la réactivité, c'est une façon de pallier le malaise, le mal-être, le choc, souvent, hein, même quelquefois, qui peut passer inaperçu, tellement il est rapide et tellement il est fugace, mais qui a bel et bien eu lieu, et c'est un choc qui est un choc très souvent corporel, c'est comme si tout le corps avait été saisi de quelque chose de choquant dans la situation, qui fait que ce mal-être... Et ça dit bien ce que ça veut dire, hein, ce mal-être, c'est-à-dire tout d'un coup, le corps n'est plus à l'aise. Et le fait de parler, eh bien, devient un palliatif, une solution. C'est pour ça que je dis volontiers que l'émotion est une solution avant d'être un problème. Eh bien là, la solution, c'est exprimer.
Oui, s'exprimer.
Donc, c'est pas simplement
comme d'autres pourraient complètement mutiques,
par exemple. D'autres pourraient être mutiques, d'autres pourraient s'agiter, d'autres pourraient partir, d'autres pourraient pleurer, d'autres pourraient crier, d'autres pourraient... Et le fait de parler, c'est pas simplement dire quelque chose d'intéressant ou d'utile, mais c'est exprimer quelque chose, parce que quand on s'exprime, on respire, on se sent présent, on se sent vraiment plus vivant au moment où on s'exprime, et que l'émotion, c'est une façon de répondre justement à cette intention de vivre.
Et parfois, Géraldine, vous vous êtes dit, mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça? Est-ce qu'avec du recul, vous analysez tout ça, vous dites que vous avez fait un gros travail sur
totalement,
vous?
Totalement, je veux dire, on revient dessus, on se dit mais qu'est-ce que ça de nouveau fait, c'est du n'importe quoi. Donc effectivement, après le travail apporté sur l'identification des situations, on va dire c'est difficile d'identifier parce que chaque situation est différente. Maintenant par contre, j'arrive à reconnaître les symptômes. En général, c'est quand je commence à avoir les tripes, moi j'appelle ça les tripes qui vibrent en fait, c'est-à-dire quand je commence à ressentir un peu la situation dans les tripes, en me disant oula, ça c'est une situation que je stressante, même si pour une autre personne ça ne le serait pas. Dans ce cas-là, j'essaie de respirer profondément et de pas laisser les choses filer, quoi, pour garder le contrôle de la situation. C'est pas toujours évident.
Et le travail, mais vous l'avez fait toute seule ou vous avez été accompagnée par un thérapeute?
Non, du tout. En fait, je m'en suis rendu compte bêtement. En fait, j'avais déjà conscience un peu de la situation, mais je m'étais jamais trop rendu compte que c'était le côté. Des fois, j'étais mal à l'aise ou je parlais beaucoup, jusqu'à ce qu'on me fasse des réflexions. Par rapport à une fois, j'avais changé de travail et je me suis retrouvée dans un groupe au moment d'une formation et j'ai un petit peu accaparé de nouveau la conversation un soir. Et une des personnes présentes m'a fait la réflexion en me disant que c'était déjà pas poli et que du coup c'est forcément que je trouvais que j'étais sympathique mais que ça l'avait un petit peu éloigné de moi, enfin, mon comportement l'avait un petit peu refroidi et éloigné. Et du coup ça m'a amené à réfléchir là-dessus et me dire il va falloir quand même que je fasse quelque chose là-dessus parce que c'est pas la première qui me le dit. Et le problème c'est que ça, voilà, on se rend pas forcément compte du tort que ça peut porter sur la longue durée. Et,
alors comment vous faites quand vous sentez cette émotion monter?
Donc je me suis dit on va faire tout simplement des choses simples. Hein, la respiration en général c'est déjà pas mal. Hein, donc alors ma maman me disait toujours tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. Donc ça a l'air d'être une expression, mais en fait je l'applique au figuré, donc c'est-à-dire que quand j'ai envie de parler, plutôt que parler, je vais plutôt réfléchir un petit peu avant de le dire, essayer de prendre plus conscience de mon environnement et surtout respirer et me dire surtout est-ce que ce que je vais dire ça a vraiment un intérêt. La question c'est surtout ça, est-ce que ce que je m'apprête à dire ça a un intérêt à la discussion ou pas. Et le simple fait de réfléchir un petit peu à ça et de plus se laisser effectivement dominer par tout ça, ça aide quand même. Mais c'est pas toujours évident non plus d'aller contre sa nature.
Ça c'est vrai, Catherine, c'est un gros travail que fait Géraldine, mais c'est bien déjà de pouvoir maîtrise.
C'est tout à fait courageux et c'est vrai que ce que je comprends, hein, c'est que le fait de respirer, c'est-à-dire de reprendre du volume, parce que la respiration, ça sert à ça, eh bien, c'est une façon de mettre un peu le pied dans la porte et de freiner, de ralentir cet emballement qui se traduit sinon par la prise de parole, quitte à ce que ce soit abusif. Mais dans ce que dit Géraldine, il y a une autre chose, c'est que quand elle dit les situations sont des situations très différentes et donc ce qui m'aide, c'est déjà de être attentionné aux premières sensations corporelles, c'est juste. Et en même temps, ce que j'entends, moi, dans les entretiens, c'est que même si les situations sont différentes, la plupart du temps, il y a un ou deux ingrédients qui sont similaires aux différentes situations. Et donc, c'est très intéressant aussi de se poser la question, en mettant cinq ou six situations les unes à côté des autres, de se poser la question de mais quel est le dénominateur commun de toutes ces situations. Et vraiment, à chaque fois, il y en a un.
Merci beaucoup, Géraldine, d'être passée par France Bleu, d'être venue nous parler ce soir. Et on vous embrasse et à très bientôt. Vous aussi, venez nous rejoindre, venez nous raconter vos émotions quand elles prennent trop de place, la colère, la tristesse. On a vu qu'on peut aussi parfois se murer dans le silence ou au contraire être très expansif. Les émotions d'un côté ou de l'autre, venez en parler avec nous ce soir sur France Bleu au 0810 055 056.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Vous êtes ce qu'on appelle un hyper émotif. Là où les gens sont un peu émus, vous vous fondez en larmes. Là où ils sont un peu énervés, vous êtes dans une colère folle. Là où certains sont un peu stressés avant un rendez-vous, vous êtes en panique totale. Vous êtes où vous l'étiez, hein, c'est peut-être derrière vous. Ce soir, on se dit tout sur les émotions, les émotifs, des émotions parfois compliquées à canaliser. Vous avez peut-être aussi croisé un émotif dans votre travail ou dans une histoire d'amour. Comment on fait pour vivre avec quelqu'un qui a les émotions comme ça à fleur de peau? 0810 055 056 pour nous rejoindre sur France Bleu jusqu'à 22h en compagnie de Catherine Emelet-Périssol et son livre « Émotion quand c'est plus fort que moi » chez Le Duc Éditions. C'est dur pour la personne, c'est dur pour son conjoint, si je parlais du couple, mais c'est vrai que parfois une histoire peut partir en cacahuète à cause des émotions.
Bien sûr, les émotions, c'est pas simplement, même si c'est un phénomène qui concerne la personne dans son individualité, son histoire, elle peut tout à fait, elle est inévitablement présente dans la relation avec l'entourage. Et c'est l'entourage proche qui est le plus directement concerné. Et cette réaction, cette émotivité chez l'un va résonner chez l'autre. Et donc, ça fait des espèces de jeux de boomerang. Et ça peut complètement abîmer vraiment une relation. Surtout dans le cadre des conjoints, lorsque chacun attend de l'autre d'être la solution à sa, oui, à sa difficulté et à sa peine ou à sa colère ou à sa fatigue ou à son insécurité. Et lorsque chacun attend de l'autre un comportement qui va rassurer ou au contraire qui va faire qu'on va se sentir grandi et admiré, ça devient très très toxique à l'intérieur du couple.
On va accueillir tout de suite Sonia dans les Deux-Sèvres. Bonsoir Sonia.
Bonsoir Vanessa et
C'est Catherine, notre grand témoin. Voilà. Sonia, quand vous étiez petite, vous pleuriez beaucoup.
Oui, moi je pouvais remplir les bassines.
Hein. C'était dans quelles circonstances? Vous pleuriez tout le temps ou il y avait des raisons particulières?
Dès qu'il y avait quelque chose qui me contrariait, une parole qui me blessait, une mauvaise note par exemple à l'école, c'était... Donc du coup j'étais raillée par mes camarades, donc du coup je pleure encore plus.
Qu'est-ce qu'il vous disait? Vous vous rappelez des réflexions qu'il y avait?
Bien sûr. On me disait, tu vas pas pleurer pour une mauvaise note. Mais moi, comme j'étais perfectionniste dans l'âme et hyperactive, c'était surtout ce côté-là que j'ai beaucoup travaillé, puisque l'hyperactivité, on est hyper, hyper dans tout, quoi.
Ouais, hyperactif et hypersensible, alors.
Voilà.
Et comment ça va aujourd'hui, Sonia?
Ah, très, très bien.
Hein, oui.
Je me dis, je me suis épanouie. Depuis, j'ai eu un passé sportif très bien rempli.
Oui.
Ça m'a beaucoup aidé. Puisque quand on fait du sport d'un très bon niveau, on est obligé de gérer tout ce côté-là. Parce que c'est l'école de la vie, hein, le fait de faire du sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut se gérer au niveau diététique, il faut se gérer au niveau émotionnel aussi. Par exemple, lors des courses, je faisais du cross, par exemple. Donc au départ, si on gère mal, ce trop plein d'énergie qu'on a en nous,
on va pas aller au bout.
Voilà.
Puis il faut gérer aussi le fait de perdre, de pas toujours gagner, comme quand on est petit, le fait de pas avoir une bonne note, c'est un peu pareil.
Ben voilà, justement, un jour d'ailleurs, je me rappelle, j'avais mené la course quasiment de bout en bout et les 100 derniers mètres, je me suis fait avoir par trois filles, quoi. Donc je finis sur la quatrième place. Donc c'est horrible.
Ouais, c'est la pire, celle-ci.
Et du coup, il y avait une pauvre barrière qui était là à l'arrivée et je donnais un grand coup de pied dedans de colère. Du coup, je me suis pété deux orteils.
Ah ben voilà, bravo. Quand on est petit, les émotions, elles sont forcément différentes quand on est grand, parce que quand on est grand, on a aussi un vécu et on a tout ça derrière. Mais quand on est petit, comment ça s'explique, ces émotions, cette sensibilité à fleur de peau, comme était Sonia petite?
Ce qu'on oublie souvent, c'est que d'abord, ce sont les mêmes émotions, petit et grand. Ce qui change radicalement, c'est que avec l'âge, le cerveau se charge d'explications, de sens, de langage. Il se charge aussi de mémoire, et donc on se réfère au connu, on se projette. Donc c'est beaucoup plus. Ce qui change, c'est que nous évoluons parce que notre cerveau évolue, et donc nous acquérons petit à petit des apprentissages, des codes sociaux. Notre mémoire commence à s'organiser aussi, ce qui fait que l'enfant, il a une réactivité, une émotion beaucoup plus, on va dire, brute de décoffrage. Ses colères sont instantanées, mais elles s'arrêtent aussi instantanément qu'elles démarrent. Ils ont peur, mais 10 minutes après, ils sont en train de jouer, de faire des galipettes, et tout ça est terminé. Pareil pour les larmes. Mais le système émotionnel est strictement le même. Ce qui change, c'est qu'en grandissant, nous y ajoutons de plus en plus d'ingrédients oui. De nos connaissances, de nos savoirs, de ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas, etc. Et cette notion de... pleurer beaucoup, et puis ce que dit Sonia, c'est-à-dire que l'écriture m'a aidée, et puis le sport l'a aidée. L'écriture comme le sport sont des façons de rentrer vraiment en contact avec soi-même, avec son capital, avec son potentiel, avec ce que moi j'appelle sa réalité, c'est-à-dire le fait de pouvoir donner du sens à sa vie, à son acte.
Et puis prendre soin de soi.
Absolument.
Ce que vous dites aussi, il faut prendre soin de son corps, de son âme pour gérer ses émotions.
C'est ça. Gérer, non pas au sens contrôlé, mais gérer au sens de conduire. Parce que le vrai sens du mot gérer, c'est nous le travestissons en disant qu'il nous faut contenir ou maîtriser nos émotions. Mais gérer n'est absolument pas contenir ou même pas canaliser, c'est conduire. Donc on voit bien que quand on conduit une voiture, eh bien on a des gestes, et puis la voiture elle va quelque part, parce que nous voulons aller quelque part, et donc il y a l'idée de se conduire. Et ce que je comprends dans l'attitude de Sonia, c'est que des larmes, elle est passée à la conduite de sa vie, que ce soit dans l'écriture ou soit dans le sport, et évidemment ça change tout.
Mais parfois on n'arrive pas forcément à conduire, et c'est très compliqué de gérer toutes ces émotions débordantes. Sonia, merci de nous avoir appelés, et on vous souhaite une bonne soirée dans les Deux-Sèvres, et on va continuer d'en parler avec vous, qui êtes aussi un grand émotif, angoissé, anxieux, colérique, triste, ému, timide, susceptible ou trop joyeux. On peut en parler aussi,
hein,
ça peut gêner dans l'environnement social. Mais qui c'est cette fille qui est tout le temps contente, qui saute de joie tout le temps? C'est pas normal. Vous avez peut-être connu ça vous aussi. 0810 055 056 pour nous rejoindre jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Vous vous mettez à pleurer de joie ou de tristesse, hein, à la moindre annonce, pas toujours exceptionnelle d'ailleurs. Vous allez changer de bureau, vous allez avoir un bébé, on vous dit que votre nouvelle coiffure est réussie ou que vous avez l'air fatigué, et c'est parti, vous pleurez. Il y a ceux qui pleurent, il y a aussi ceux qui rougissent, qui paniquent, qui ont les mains moites. Vous êtes émotif, et comment vous le vivez au quotidien? Racontez-nous dans quelles conditions vos émotions prennent parfois le dessus, comment ça commence, comment vous faites pour gérer. 0810 055 056, c'est le numéro dont se dit tout. Et notre grand témoin ce soir, c'est la psychothérapeute Catherine Emelet-Périssol, auteure du livre Émotions, quand c'est plus fort que moi, chez Le Duc Édition. Je dirais même co-auteure avec votre fille Aurore Emelet. C'est important de le préciser. Laura est avec nous en Auvergne. Bonsoir Laura.
Oui, bonsoir.
Alors vous fondez en larmes dès que vous entendez une sirène de pompiers.
C'est ça.
Mais c'est lié à quelque chose en particulier, Laura?
Depuis le décès de ma mère.
C'était il y a combien de temps, le décès de votre maman?
Le 21 juillet 2014.
Et à chaque fois, ça réveille ça en vous?
Oui. Beaucoup m'ont dit, ne pense pas aux fées qui sont venues chercher ta mère, mais c'est plus fort que moi.
Et c'est compliqué à gérer, cette émotion-là, Laura, pour vous?
Très. J'ai beaucoup de mal à pas résister.
Ouais. Là, on voit bien, Catherine, qu'il y a un déclencheur pour cette émotion-là.
Bien sûr.
Enfin, il y en a pour toutes les émotions, d'ailleurs, mais là, on le sent plus.
C'est ça. Là, on entend que vraiment, il y a un élément déclencheur. et que cet élément déclencheur, il vient réveiller une mémoire de choc, de peine, de on entend aussi que l'émotion, il y a toujours une histoire, même si évidemment ça paraît invisible, mais une histoire de presque de vie et de mort dans l'émotion, hein. C'est l'émotion, elle traduit inévitablement un choc qui a été mémorisé sur le long cours, mais qui dit quelque chose de la façon de rester debout, de rester vivant dans la situation. Et donc, ce que je comprends, c'est que la sirène de pompiers, le SAMU, enfin voilà, tout ce qui concerne la prise en charge, le soin en cas de maladie grave, eh bien, ça vient réveiller à travers les larmes, non seulement la peine et la tristesse, mais ça vient réveiller en même temps, à travers ce souvenir, tous les moyens que nous mettons en œuvre pour arriver à traverser cette épreuve et que bah, ça reste présent. Donc ça peut être effectivement compliqué, l'environnement peut ne pas comprendre, mais pour la personne, ça reste quelque chose de très important, presque comme une sorte de culture que l'on a et que l'on conserve pour justement répondre à comment je reste vivant, moi, quand je suis atteint d'une peine pareille.
Et Laura, est-ce qu'on vous a déjà fait des réflexions? On imagine très bien les réflexions qui peuvent arriver, un genre, mais tu peux pas te mettre dans des états pareils, c'est pas possible que tu sois encore bouleversée comme ça. Vous avez entendu ça, Laura?
Non, jamais, on me l'a dit, mais c'est vrai que les gens essaient de me soutenir en me disant essaye de penser à autre chose quand on entend la sirène, mais...
Oui, c'est facile à dire, ça.
Oui, ça, c'est pas, malheureusement, je pense que c'est pas du tout comme ça que petit à petit vous allez pouvoir écouter, entendre les sirènes avec plus de paix ou plus de recul. Précisément, je crois que c'est plutôt en entendant ce qui se joue à ce moment-là, toute la valeur, pas simplement symbolique, mais la valeur des preuves que vous avez vécu à ce moment-là, c'est plus vous acceptez cet état de fait, plus vous acceptez cette réactivité, ce bouleversement qu'a été pour vous, notamment, j'imagine, le décès de votre mère, c'est évidemment en l'acceptant que petit à petit, l'émotivité peut s'atténuer au fil du temps. Certainement pas en pensant à autre chose, d'autant que l'émotion, c'est pas un phénomène lié à la pensée, c'est un phénomène lié au choc.
Est-ce que on peut imaginer qu'un jour, Laura entende une sirène de pompiers, qu'il n'y ait plus cette réaction et se dire « Ah, ça y est, c'est fini ».
Oui, mais peut-être qu'elle pensera néanmoins à sa mère, mais de façon plus juste, et notamment de penser à la façon dont elle-même a traversé cette épreuve. Parce que je pense que c'est ça qui peut aider. C'est compte tenu du choc et compte tenu de la peine et compte tenu du deuil, c'est comment est-ce que nous traversons, quelle vitalité nous retrouvons à l'intérieur de nous, quelles ressources nous trouvons pour traverser les épreuves. C'est évidemment cette mise en conscience-là qui va nous aider, qui va, j'espère, aider Laura à retrouver un peu plus de recul.
Mais il n'y a pas de règle.
Non, il n'y a pas de règle. Il y a des individus, il n'y a pas de règle.
Merci Laura de nous avoir appelés. On vous embrasse et on vous souhaite une bonne fin de soirée en Auvergne. Les émotions, on va continuer d'en parler avec vous qui êtes aussi émotif, très émotif. On a parlé tout à l'heure de pleurer devant la télé. On a parlé de ceux, de celles, parce que c'était Géraldine en l'occurrence, qui parle beaucoup quand elle est mal à l'aise. On a eu aussi Sonia qui pleurait beaucoup quand elle était petite. Pascal, trop empathique. Laura qui fond en larmes dès qu'elle entend une sirène de pompiers. Et vous, c'est quoi cette émotion qui prend trop de place dans votre vie? Est-ce l'angoisse, l'anxiété, la colère, la tristesse, la timidité, la susceptibilité? 0810 055 056 pour nous rejoindre jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Vous êtes un hyper sensible, un hyper émotif et vous ne l'avez pas toujours très bien vécu à l'école, au travail, dans votre couple par exemple. Comment vous avez fait pour vivre malgré ces émotions débordantes? Comment vous avez réussi à canaliser ou pas votre colère, votre susceptibilité, votre tristesse, votre déception, votre stress? Ce soir, on se dit tout sur les émotions qui prennent trop de place, mais surtout sur les émotifs avec vos parcours de vie. Au 0810 055 055 direction Marseille, chez Patricia. Bonsoir Patricia.
Bonsoir.
Alors vous exagérez sur tout le temps.
Ah oui, surtout, et je ne sais pas si ça vient de mon enfance. Il faut dire que je suis handicapée visuelle, j'y vois très mal. Bon, ça déjà, voilà, on m'a surprotégée. J'ai perdu mon papa à l'âge de 14 ans, je suis adulte. Et on m'a pas fait soigner, je l'ai jamais accepté. Je ne l'ai jamais accepté du tout. Je disais à ma mère qui était partie en croisière et qui va revenir. Et bon, ben voilà, hein, c'est des parties d'un infarctus subi. Hein.
Et aujourd'hui, vous êtes comment quand vous dites vous exagérez surtout? C'est quoi dans votre quotidien? Ça ressemble à quoi, par exemple?
Ça ressemble, par exemple, si... par exemple, j'ai téléphoné à une amie ou j'ai fait cramer quelque chose au four. Oh mon Dieu, j'ai fait cramer quelque chose. Oh là là, on dirait que c'est moi qui ai fait cramer quelque chose. Ça me peine parce que la personne a fait son travail, et ça devrait pas. Je pense.
Patricia, il y a un bruit bizarre dans votre téléphone. Attendez.
Oui, je sais pas ce que c'est.
On dirait un cheval qui marche avec vous. Non, c'est pas ça. Il y a pas de cheval, rassurez-moi.
Non. Non, mais je sais pas, vous voyez, je suis très, je prends pas...
Vous prenez tout très à cœur, c'est ça?
Oui.
Oui.
Et je suis très, très angoissée. Alors, je sais pas si je fais partie de cette sorte de l'émission, quoi, de l'émotivité, de cette extrêmement... Je sais pas du tout.
Mais c'est de l'émotion, finalement.
Ah oui, c'est de l'émotivité... qui se manifeste par effectivement ce débordement d'exagérer, de partir au quart de tour, d'être peut-être même susceptible face à certaines circonstances. Oui, c'est de l'émotivité. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Patricia. Il y a du stress, il y a de la tension, il y a quelque chose de suffisamment insécure à l'intérieur. Et donc, en fait, cette émotivité, quand on dit que on se pose la question de comment vivre malgré ces débordements émotionnels, cette question-là, c'est pas celle qui va la plus aider, parce que ce qui va aider, c'est déjà d'entendre que cette émotivité, et ben, c'est précisément ce qui me permet de vivre. Donc là, le fait d'exagérer sur tout, le fait de prendre tout, de réagir au quart de tour, c'est une façon de vivre.
C'est un pare-feu aussi, parfois.
C'est un pare-feu, c'est une façon de se protéger, c'est une façon de répondre à j'existe, d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est une voie qui a été empruntée et puis qui a fini par devenir une habitude de vie, une personnalité, qui fait que finalement, tant que j'exagère sur tout et tant que je prends les choses à cœur, eh bien, je me sens probablement plus vivante, plus existante, plus vivante, plus dynamique, plus présente finalement dans la relation. Et donc, avant de vouloir gérer ça, il faut vraiment prendre la mesure de ce que l'émotion ramène comme vitalité. Parce que si on ne le fait pas, on passe à côté de l'essentiel et on essaie désespérément de maîtriser un comportement qui est en même temps là et à l'origine là pour répondre vraiment à un désir d'existence et de sécurité, de protection.
Ça répond un peu à votre interrogation, Patricia ?
C'est ça. C'est exactement ça. Mais alors, comment il faut faire pour gérer j'arrive pas à gérer ça, c'est ça ?
Parce que je pense qu'on se pose une mauvaise question quand on se demande de gérer ça. Ce qu'il y est à faire, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure sur la conduite. C'est comment est-ce que je peux répondre à mon désir de sécurité autrement qu'en exagérant tout et en réagissant en quart de tour. C'est-à-dire que le problème n'est pas tant de vouloir absolument contrôler ou changer ce comportement. Le problème, c'est beaucoup plus d'écouter le désir de vie, le désir de vitalité, le désir de protection et de sécurité qui est contenu en vous, à partir duquel, il est possible petit à petit de cheminer, mais en se posant cette bonne question-là. Parce que la question de vouloir absolument gérer l'émotivité, c'est une impasse.
Il faut remonter un peu plus en arrière.
Il faut remonter vraiment jusqu'au désir et jusqu'au besoin d'existence qui nous imprègne chacun.
Merci Patricia d'être venue ce soir sur France Bleu. Les émotions, l'émotivité, les émotifs, on en parle avec vous ce soir sur France Bleu. Vous qui avez du mal parfois à gérer tout ça, on vous dit de vous que vous êtes trop en colère, trop angoissé, trop stressé, trop calme peut-être aussi. On parlait des taiseux tout à l'heure en préparant cette émission. 0810 055 056 pour nous rejoindre avec notre grand témoin, la psychothérapeute Catherine Emelet-Périssol, co-auteur du livre Émotions émotion quand c'est plus fort que moi.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Une jolie chanson qui peut-être faire naître des émotions chez certains d'entre vous. On parle des émotions ce soir sur France Bleu jusqu'à 22h dans On se dit tout. Vous êtes angoissé, vous êtes anxieux, vous êtes colérique, vous êtes triste, vous êtes timide, vous êtes ému souvent. On va parler aussi de peur, pourquoi pas. Vous avez peut-être raté un entretien d'embauche parce que justement, il y avait trop d'émotions, vous êtes resté complètement bloqué devant votre interlocuteur. Venez nous rejoindre au 0810 055 056 pour nous parler de ces émotions qui parfois prennent trop de place. Nous sommes avec Philippe Aumont. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir Vanessa.
Alors vous pleurez en écoutant de la musique.
Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est encore pour moi une recette du bonheur qu'on n'a pas pu exploiter la dernière fois qu'on s'était vu en ligne. Et donc je voudrais pas devant mes amis écouter certaines choses où je pourrais peut-être passer pour eux pour une madeleine ou une midinette, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mm-hmm. En fait, là, j'expliquais tout à l'heure au standard que, par exemple, The Voice, de temps en temps, un petit coup de pub pour eux, c'est une très belle émission. Et on chante très très bien ailleurs, d'ailleurs, il faut le savoir. Donc, pour les gens qui sont inconditionnels de cette émission, il faut absolument faire un petit tour sur YouTube. Il y a vraiment des gens, on chante bien aussi ailleurs, il faut dire. Il y a vraiment des choses très très exceptionnelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il n'est pas rare que moi, je me retrouve avec ma boîte de Kleenex sur les genoux, parce que ces émotions, c'est aussi bien avec le cinéma. C'est qu'en fait, il y a des passages où là, je me dis, il y a des acteurs qui ont cette puissance de nous faire passer justement cette émotion. Donc, il faut les capter. Enfin, moi je les capte. J'espère que pour les autres, c'est pareil. Enfin, ce que je veux dire, j'espère que je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Mais je reconnais que...
Mais ça ne vous pose pas de problème, visiblement. Vous aimez cette émotion-là?
Oui, je l'aime, justement. Mais je ne peux pas la dévoiler devant tout le monde. Mon problème est là. C'est-à-dire qu'en fait, si je suis chez mon amie, Marie, qui est donc à quelques kilomètres là ici du Mans, j'espère qu'elle est derrière, qu'elle entend. Et donc, chez elle, il y a un très très grand écran, il y a le son, ce qu'on appelle cinéma. Donc ça veut dire qu'en fait, si c'est un film, ou si même si c'est, comme j'étais en train de dire, ça peut être un concerto, parce que bon, j'aime bien beaucoup tout ce qui est philharmonique. Enfin, je suis beaucoup dans le lyrique, en même temps dans la musique moderne. Donc, si je parle de The Voice, il y a vraiment, de temps en temps, des exception. Donc il y a des choses qui sont...
Par exemple, quand vous êtes chez votre amie Marie, que vous citez Philippe, est-ce que vous pleurez avec elle? Ou est-ce que vous vous retenez?
Non. Parce que il n'est pas rare qu'elle pleure avec moi. Voilà le truc.
J'ai pas compris, Philippe, pourquoi?
Je disais qu'il n'est pas rare qu'elle pleure avec moi.
Ah oui, d'accord. Ah bah dans ces cas-là, vous pouvez le partager.
Voilà. On partage. Donc je vais peut-être aller chercher ma boîte de Kleenex, vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Ah oui, quand même. C'est...
Oui, le fait de... c'est simplement sur les souvenirs, parce qu'il y a des tas de choses. Je peux revenir longtemps en arrière, donc je sais que... Je voudrais saluer Pierre Perret, qui avait dit que ça vous fout un coup de grisou dans le palpitant. Et ça, c'est une belle expression, ça. Donc et puis Georges Brassens qui disait, il y a un moment, il y a le chagrin qui lâche la bonde. Donc est-ce qu'il faut se retenir ou pas? Moi, je pense que, en fait, il faut vivre ses émotions. Faut pas se retenir, quoi.
Est-ce qu'il faut se retenir ou pas, Catherine? Après tout, on peut se poser la question, là, non? On voit bien que ça fait pas de mal.
Bah, non seulement ça fait pas de mal, mais témoigner de notre sensibilité face à, en écoutant une musique, en voyant quelque chose de beau ou de quelque chose de tout à fait étonnant, et vraiment témoigner à ce moment-là de l'effet que ça nous fait intimement. Je pense que évidemment c'est quelque chose qui est à vivre et qu'on serait fou de se priver de cette résonance dans laquelle nous pouvons être avec la musique, avec une image, avec une parole, avec un geste, avec un enfant, un animal. Enfin vraiment, ce serait aberrant de vouloir absolument contrôler ces manifestations. Et d'ailleurs, je pense que les larmes témoignent aussi bien de la joie que de la peine. Il y a des larmes de joie, des larmes de peine, et tout ça est parfaitement naturel. Et au contraire, je pense qu'il est même préférable de se laisser éprouver pour pouvoir parler si on le souhaite. Et si on ne parle pas, ce que fait avec Marie, c'est qu'il partage cette sensibilité, et je pense que c'est une façon vraiment d'être proches les uns des autres.
Est-ce que parfois on est plus sensitif sur sur un de nos sens, on va réagir, l'émotion va se créer plus en regardant quelque chose, en écoutant?
On n'est pas tous égaux devant ces manifestations. On peut être plutôt sensible effectivement aux images, plutôt sensible au bruit, au son, à la sonorité. On peut être aussi extrêmement sensible aux gestes. on est plus kinesthésique à ce moment-là. On peut être sensible au toucher. En fait, on a 5 sens et nous ne sommes pas tous égaux devant la façon dont ces 5 sens sont excités, sont stimulés par ce qui nous vient de notre environnement. Et nous avons tous notre façon de répondre. Je parlais de résonance tout à l'heure. Nous avons tous nos façons de répondre et d'entrer en résonance avec l'environnement dans lequel nous sommes. Et c'est ça, évidemment, qui fait notre richesse.
Donc, Philippe, pas de panique, tout va bien. Et continuez à vivre vos émotions. Est-ce que vous avez déjà pleuré en écoutant On se dit tout ?
En écoutant qui ?
On se dit tout, en écoutant notre émission ?
Oui, bien sûr. Il y a eu des moments qui étaient vraiment très, très forts.
Ouais.
Et bon, il y a des moments, c'est l'émotion. Donc bon, si on est tout seul chez soi, bon, c'est, il y a aucun problème, on se laisse aller. Mais c'est toujours le regard des autres qu'on a peur. Donc enfin, quand on est enfin comme moi, quoi, ou comme j'étais en train de dire, si on doit passer pour une Madeleine, on n'est plus un homme. Enfin, il y a ce problème là qui aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est pas passé encore devant tout le monde. Et bon, comme j'ai entendu là tout à l'heure, là, cet homme qui avait pleuré dans cette salle de cinéma. Sa fille a compris, donc ça c'est très émouvant, donc vous voyez, ça me remonte.
Ça vous touche, mais on l'entend bien, Philippe.
Oui.
Merci.
Vanessa, ne changez rien.
promis, on vous embrasse, Philippe.
Bisous, à plus, bye.
Au revoir. Les émotions, on en parle avec vous ce soir sur France Bleu, au 0810 055 056. Les hommes n'ont pas peur de pleurer, les hommes n'ont pas peur d'en parler non plus. Nous serons dans un instant avec Pascal à Paris, et vous aussi, venez nous rejoindre jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Il est 21h40 et jusqu'à 22h, on parle avec vous des émotions et de vos émotions avec notre grand témoin, la psychothérapeute Catherine Emelet-Périssol, co-auteure avec Aurore Emelet du livre Émotions, quand c'est plus fort que moi, chez Le Duc Édition. Et nous sommes avec Pascal, donc à Paris. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Vous pouvez pleurer aussi pour les autres. Vous pouvez fondre en larmes pour les autres.
Ah oui. Ah oui, bien sûr.
C'est-à-dire, dans quelles circonstances ça se passe ?
Bah, c'est pas compliqué, je sors de chez moi dans le 6e, je vois les SDF et les sans-papiers, et ça y est, ça commence. Ils me racontent leurs histoires, et puis ça peut être aussi n'importe qui me raconte ce qu'il a vécu dans sa vie. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses horribles. Et là, tout de suite, c'est comme si moi je l'avais vécu moi-même, et je suis dans une empathie complète. Et là, bah, je vais donner jusqu'à ma chemise, quoi. Voilà. Et là, je vais fondre en larmes, mais après, je vais prendre ça avec humour, parce que c'est ma façon à moi de surmonter ça, et puis faire des blagues, de l'humour noir, et puis me taper des crises de fou rire. D'abord, je vais pleurer, après, avec les gens, puis après, je vais me taper des crises de fou rire avec eux.
Ouais, vous pouvez passer d'une émotion à l'autre comme ça?
Bah, c'est d'abord les pleurs face à la misère d'autrui, et puis c'est ensuite les crises de fou rire en faisant de l'humour noir dessus, quoi, pour surmonter ça ensemble, quoi.
Ça, comment on appelle ça, Catherine Emelet-Périssol, quand on a différentes émotions, qu'on passe d'une émotion à l'autre ?
C'est pas forcément passer d'une émotion à l'autre, c'est passer d'un comportement à un autre, c'est-à-dire passer de cette empathie immédiate ou face à la souffrance d'autrui. Ben voilà, j'entends Pascal qui est complètement choqué, ravagé et qui pleure et qui, pour arriver dans un deuxième temps à retrouver un petit peu de j'allais presque dire de sécurité intérieure, qui du coup fait de l'humour noir pour arriver à surmonter finalement, mais pas simplement surmonter son émotion, mais surmonter la situation qui est la souffrance d'autrui à laquelle il est extrêmement sensible. On peut effectivement passer d'une émotion, on peut passer d'une peur à la colère, par exemple, une grande peur, vous êtes en voiture, il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson et vous éprouvez évidemment une grande peur, puis dans un temps deux, vous pouvez invectiver le conducteur, le traiter de tous les noms d'oiseaux parce que vous l'accusez finalement de vous avoir fait peur. Donc nous sommes tous dans cette variation d'émotions et c'est très naturel. À chaque fois, quelle que soit l'émotion, que ce soit dans la peur, la colère ou la tristesse, que ce soit dans ces habitudes qui consistent à faire de l'humour, et faire de l'humour c'est pour éviter d'être trop affecté et d'éviter la situation. On peut aussi agresser. Et agresser, c'est une façon de prendre de la distance par rapport à l'autre, ou une façon d'avoir raison sur l'autre. Eh bien, à chaque fois, il s'agit toujours de répondre à ses propres besoins de vie et même de survie dans les situations. Et donc l'émotion ne cesse de nous interpeller sur comment je réponds moi à ma propre vie dans la situation dans laquelle je suis située. C'est ça que nous avons à entendre, et que dans une société qui met toujours l'accent sur la performance et sur la perfection, nous aurions tout intérêt à entendre et à varier évidemment les réponses pour répondre à ce besoin de sécurité et d'identité.
Et Pascal, comment vous vous sentez, vous justement, quand vous vous rendez compte de cette situation, quand vous pleurez presque pour les autres, quand vous éclatez de rire, vous avez du recul sur ça ou ça se fait beaucoup plus tard ?
Alors d'abord, je voudrais dire qu'il y a une troisième émotion qui vient en troisième. D'abord les pleurs, ensuite le rire, hein, l'humour, hein, pour comment exorciser un peu tout ça. Mais après, il y a la colère contre les responsables de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, ces émotions très fortes, elles m'ont causé beaucoup d'ennuis dans ma vie. J'ai perdu énormément de bons jobs dans le commerce, etc. Pourquoi ? Parce qu'il fallait mentir aux fournisseurs, aux clients, etc. Et que ça, je supportais pas en pensant à eux, à leur famille et tout. Donc, voilà. Et puis, héberger des sans-papiers, des SDF pendant toute ma vie, ça m'a causé beaucoup d'ennuis, enfin, plein de choses comme ça. Donc, je me suis dit, on m'a dit, tu es trop gentil, tu as des émotions trop fortes, il faut calmer ça. J'ai essayé de prendre des médicaments, des thymorégulateurs, vous savez, des régulateurs d'humeur. Mais là, j'avais l'impression de ne plus ressentir aucune émotion et que j'étais comme mort, si vous voulez. Et donc, j'ai arrêté, j'ai fait le choix délibéré de... ressentir des émotions fortes plutôt que de n'avoir l'impression d'en ressentir aucune.
Oui, sinon on est quoi ? On est un robot, c'est ça, Catherine ?
On n'est pas un être humain en tout cas.
Oui, sans émotion.
Sans émotion, on ne peut pas être un être humain qui effectivement est constitué pour être en résonance, pour être sensible à son environnement, mais évidemment sans oublier ses propres besoins. C'est là toute la délicatesse de la prise en compte des émotions. Il s'agit toujours de trouver une forme d'équilibre entre soi et l'autre, soit avec l'autre. Et on ne peut pas être tout seul, mais on ne peut pas non plus être complètement absorbé par les autres. Et donc, il y a cet équilibre à trouver petit à petit, à tâtonner. On met souvent longtemps à le trouver, mais c'est aussi une jolie façon de découvrir sa propre humanité.
Et l'équilibre, Pascal, vous avez l'impression de l'avoir trouvé ou c'est trop aujourd'hui ? Trop ?
Alors, écoutez, j'ai toujours des émotions aussi fortes, et quelque part, bon, c'est y a toujours un peu de souffrance hein, dans des émotions fortes, mais je commence à avoir le cuir dur, j'ai 50 ans cette année, et puis effectivement, j'ai commencé petit à petit à apprendre à m'occuper de mes besoins personnels, mais vraiment minimaux, hein, c'est-à-dire ma santé, et finalement, tout en me contentant de très peu, il y a une responsabilité que j'ai par rapport à moi-même que personne ne peut assumer à ma place. Et si je ne m'occupe pas de moi-même, si je ne me sauve pas moi-même, je pourrais pas sauver les autres, quoi, non plus. Donc, il faut que je m'occupe de moi-même un minimum pour pouvoir aider les autres.
Voilà. C'est bien quand même, c'est un bon début.
Non seulement ça, mais c'est cette posture-là, cette attitude-là qui peut contribuer petit à petit à mieux conduire cette émotion, non pas en la supprimant, surtout pas, mais petit à petit en l'aidant à se canaliser comme si on apprivoisait finalement un animal intérieur.
Merci Pascal d'être venu témoigner ce soir sur France Bleu. On vous dit à très bientôt pour d'autres témoignages, on l'espère, dans On se dit tout. Et jusqu'à 22h, on parle d'émotion, vous l'avez peut-être compris si vous venez de nous rejoindre, avec notre grand témoin Catherine Emelet-Périssol, auteure de Émotion quand c'est plus fort que moi, peur, colère, tristesse, comment faire face. C'est aux éditions Le Duc.